Force d'un prénom et pouvoir du nom, Marie de France et Christine de Pisan, aujourd'hui Amour courtois, lait et ballade, deux voix féminines de la poésie médiévale.
La compagnie des poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Jacqueline Cerchiglini-Toulet, Viviane Griveaux-Jeunesse, bonjour, bienvenue à toutes les deux. Au programme aujourd'hui, donc Christine de Pisan et Marie de France, l'une poétesse du tournant du XVe siècle, première femme française, dit-on, à avoir vécu de sa plume, et sa plume fut pour le moins prolixe et volontaire, vers, prose, lait, rondeau, mais aussi textes politiques, philosophiques, un traité militaire même, une presque autobiographie, une apologie des femmes, une participation centrale et vigoureuse, disons, à la fameuse querelle du roman de la Rose, et des ballades, dont les 100 ballades d'amants et de dames, écrites autour de 1410, qui reparaissent par vos soins, Jacqueline Cerchiglini-Toulet, dans une édition bilingue pour la collection Poésie Gallimard. L'autre, Marie de France, donc poétesse à la biographie et géographie plus flottante, hein, disons, mais qui laissa dans le dernier tiers du XIIe siècle, entre 1160 et 1167, hein, c'est-à-dire au tout début de la littérature en langue d'Oïle, ses 12 très fameux laits qui balancent entre merveilleux et effet de réel, empruntés aux légendes bretonnes et dont vous examinez les ressorts littéraires, placés sous le signe du raffinement et de la pudeur, Viviane Griveaux-Jeunesse, dans un essai paru aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Dans le temps, bon dans le temps même, du 12e au 18e siècle et les variations Goldberg de Bach sous les doigts de Glenn Gould. C'est un choix qui est vôtre, Viviane Griveaux-Jeunesse, que de solliciter Bach pour évoquer Marie de France, moins par goût de l'anachronisme, je suppose, que pour évoquer une dimension commune, hein, celle de la variation peut-être, et puis celle du contrepoint, j'imagine. Hein.
Tout à fait. L'idée que je développe dans ma conclusion, c'est de faire résonner musicalement le texte de Marie de France. Et il me semble qu'on retrouve cette dimension chez Bach, celle d'une musique formelle, contrainte, mais qui joue aussi de la redite, de la répétition. Et on trouve cette dimension dans les laits de Marie de France, alors qui questionne beaucoup la critique, puisque on ne sait pas dans quel ordre pouvaient circuler ces textes. En tout cas, on sait que le recueil n'est pas fixe et qu'il ne reflète pas notre lecture moderne. Nous avons un recueil actuellement qui est dans un ordre plutôt figé et canonique. Il y a cette question de la totalité, de l'ordre, de la redite. Et il me semblait que Bach faisait entendre pour nos lecteurs contemporains quelque chose du même ordre, dans l'ordre de l'esthétique qui se joue au Moyen-Âge.
Alors qui se joue chez Marie de France, mais qui se joue probablement aussi au Moyen-Âge, c'est ça ? C'est-à-dire qu'au fond, l'impératif de la variation, parce que c'est bien de ça qu'il est question, pourrait d'une certaine façon gouverner l'esthétique du Moyen-Âge, en tout cas à ce moment-là?
Pas forcément la totalité de l'esthétique du Moyen-Âge, mais c'est vrai que la variation est un concept littéraire en tant que tel, que les théoriciens appellent variatio en latin, et il y a effectivement cette idée de varier pour distraire le public, donc à un niveau, au niveau du texte lui-même, ne pas toujours dire semblablement, mais aussi au niveau des sources d'inspiration, puisque le Moyen-Âge va toujours alléguer, puiser dans une matière déjà existante, parfois avec une forme de mauvaise foi, puisque parfois les clercs et les auteurs médiévaux inventent, mais ils se mettent toujours sous un patronage déjà connu, et c'est le cas avec Marie de France, qui se réclame des anciens Bretons en disant qu'elle puise dans une matière celtique déjà existante.
Jacqueline Cerqui-Glini-Toulé, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, la variation, c'est plus un concept qui s'applique à la poésie de la Renaissance, mais tel que vient de l'expliquer Viviane Griveaux-Genet, il y a effectivement cette souplesse avec les motifs, et ce que vous disiez est tout à fait vrai, le fait qu'un auteur médiéval doit s'inventer une autorité antérieure. Et donc, même si on n'a pas de source, on va dire qu'on en a une, que ça ne vient pas de soi. Et donc, c'est très joliment fait avec les laits bretons, les laits celtiques.
Elle n'aurait laissé qu'un prénom, hein, que le prénom de Marie, et c'est au XVIe siècle, hein, je crois, qu'on lui a ajouté, que fut ajouté le De France, hein, par Claude Fauché. Un ajout qui, écrivez-vous, ne dirait rien ni de sa biographie, ni de sa géographie, ni de sa langue. Hein. Au fond, de quoi serait-on désormais, aujourd'hui, sûr?
On ne sait pas beaucoup plus à quoi renvoie ce De France. Est-ce que c'est par rapport à la langue dans laquelle elle écrit, mais qui est la langue de l'élite anglo-normande de la cour d'Henri II Plantagenet? Est-ce un élément biographique? S'il s'agit de la sœur de Thomas Becket, ça pourrait renvoyer au fait qu'il s'agissait d'une famille française qui avait immigré en Angleterre. Qu'ensuite elle a fui lors de la proscription de son frère en France avec ses enfants. Mais certains critiques vont jusqu'à dire que cette revendication de France renvoie à un positionnement littéraire plus qu'à une marque biographique.
Jacqueline Cerqui-Glini-Toulé, qu'est-ce qu'on sait de Marie de France?
Alors, quand même, elle dit « si suis de France ». « Si », c'est la particule
France,
qui veut dire « et je suis de France ». Donc, le mot « France » est bien prononcé, mais pas accolé au nom de Marie. Et Viviane vient de résumer admirablement le fait qu'on n'a que des hypothèses. Mais là où, et je crois que Viviane serait d'accord avec moi, où on ne peut pas mettre en doute ce qu'on a fait à une époque, c'est que c'est une femme quand même qui écrit.
Alors cette hypothèse, vous la balayez assez rapidement d'ailleurs, parce que vous l'évoquez, hein, cette hypothèse de la construction de Marie de France, vous la balayez assez rapidement. Alors non pas en envisageant que l'écriture de Marie de France soit une écriture féminine, hein, ce qui est une chose que vous balayez assez rapidement, mais peut-être davantage par la position qui est la sienne en tant qu'auteur à l'intérieur même de ses écrits, à l'intérieur même des laits et du prologue, c'est-à-dire cette pudeur, ce retrait qu'elle a et qui au fond serait le retrait propre à la position des femmes qui sont priées de se taire à ce moment-là.
Alors tout à fait, il y a une forme de discrétion chez cet auteur, discrétion dans l'absence de prise à partie des auditeurs, du lectorat, comme ça peut être souvent le cas dans la littérature médiévale, qui aime bien solliciter son auditoire aussi dans une fiction d'oralité. Même quand il s'agit d'un texte écrit, on pense toujours à la réception orale du texte, qui était fondée aussi sur une réalité, puisque les textes pouvaient être récités, quoique écrits. Donc il y a cet aspect, la discrétion de l'auteur, une réserve sur la question de la morale. On a des clercs qui sont beaucoup plus bavards sur la conduite des personnages. On a une relative réserve, et donc qui pourrait être une marque de pudeur féminine.
Quand vous dites que ces laits ont pu être mélangés, qu'on a pu les retrouver après de façon plus ou moins anonyme, qu'est-ce qui ferait, au fond, qu'on reconnaîtrait la singularité de l'écriture de Marie de France?
Par rapport à d'autres laits, il y a un traitement différent de certaines thématiques, par exemple la question du merveilleux. D'autres laits qui puisent dans la même matière celtique, bretonne, mettent beaucoup plus l'accent sur le merveilleux breton, sur des éléments magiques. Or, Marie de France en use avec une relative parcimonie, et surtout, là n'est pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est l'histoire d'amour. Et par exemple, dans Ionec, le fait que le chevalier amant soit aussi mi-homme, mi-oiseau, n'est pas au centre de l'intrigue. Ce qui est au centre de l'intrigue, c'est bien l'amour de l'amant et de la dame emprisonnée.
Puisqu'on parlait de la singularité de son éventuel, de son écriture, l'écriture de Marie de France, j'aimerais m'arrêter peut-être sur l'anthologie critique que vous glissez en fin d'ouvrage et qui commence par un article du philologue et médiéviste Joseph Boudier, paru dans la Revue des Deux Mondes en 1891 et qui commence comme suit. Marie de France nous dit qu'elle a composé ses laits pour être lue et lue en collection. C'est bien une femme qui devait, l'une des premières, écrire ses légendes. Marie l'a fait avec charme, sans grand talent. Il faut le dire, sa valeur poétique est médiocre et sa maîtresse forme est, auprès d'une certaine grâce sobre, la sécheresse d'imagination. Sent-elle toujours l'intérêt des récits qu'elle répète ? On en pourrait en douter, car elle prend de toutes mains, sans choix. Et puis un petit peu plus loin, il continue. Elle raconte les scènes les plus violentes ou les plus tendres du même ton placide, sans en paraître touchée. C'est d'ailleurs une garantie que ses poèmes doivent être infiniment proches des originaux, de ces contes oraux qu'elle a reçus des jongleurs bretons. Elle est trop peu artiste, trop peu imaginative pour y avoir beaucoup ajouté. Elle aligne avec calme ces petits octosyllabes dont les rimes plates semblent n'avoir d'autre valeur que celle d'un procédé mnémotechnique. Pardon, c'était un petit peu long, mais je me demandais ce que ce texte d'une absolue condescendance nous dit, malgré tout, pour que vous ayez choisi de le reproduire. Est-ce que ça nous dit, au fond, que peut-être le 19e siècle est plus misogyne que l'a été le 12e ou peut-être même le 15e, dont on va parler avec Christine de Pisan?
Alors, la critique, la médiévistique du 19e siècle est connue pour avoir des partis pris. Enfin, de toute critique en a, et notamment l'orientation parfois un petit peu misogyne est à intégrer. D'ailleurs, je crois que sur Christine de Pisan, on trouvera matière sans difficulté.
Là, la misogynie de Joseph Bédier est patente et elle est d'autant plus intéressante à observer que Bédier connaît bien le Moyen-Âge, puisque c'est lui qui va... c'est le grand médiéviste de l'époque, Académie française, et il va réécrire la légende de Tristan et Iseut. Mais c'est l'idée qu'une femme ne peut pas écrire. Une femme ne sait pas écrire, ne peut pas écrire, peut-être même ne doit pas écrire. Et ce qu'il dit, il y a une sorte de surdité, mais qui est une surdité intellectuel. Ce qu'il dit sur les octosyllabes de Christine de Marie de France, ça va pas, c'est faux. Enfin, et moi, cette formule de Bédier, Bédier est un grand esprit. Il y a rien. Enfin, c'est un grand esprit qui connaît le Moyen Âge, qui doit l'aimer, j'espère pour lui, d'une certaine manière. Mais quand ça vient d'une femme, c'est pas possible.
Alors, cette question du genre se place également au centre des laits, plutôt la relation homme-femme, c'est-à-dire, et c'est bien ce qui assure la continuité du recueil L'Amour, vous l'avez dit, Viviane Griveaux-Genest. Donc, ressaut dans le temps, cette fois on est en 1485, plus près de Christine de Pisan, dont on va parler tout à l'heure. L'histoire qui se raconte là est celle de Gilles, missionné par le diable pour amener, disons, chaos et désunion dans la vie de Anne, et qui en tombe éperdument amoureux. On écoute.
C'est drôle de rester sans crainte, sans étonnement devant les choses qui surprennent les autres, qui les inquiètent.
Pourquoi serais-je inquiète ?
La vie tout entière n'est-elle pas remplie de choses inexplicables ?
Un oiseau, un fruit, une baie, le soleil, les arbres de ce bois, et nous-mêmes qui ne savons pas d'où nous venons, où nous allons.
Thank you. comme cette eau est fraîche. Bouche est fraîche, elle aussi. Je vous aime.
Anne. Gilles.
Qu'avez-vous?
Je ne sais pas. J'étais si heureuse. Et puis brusquement, j'ai pensé à Renaud. Lui aussi m'a dit « Je vous aime, Anne ». Avec le même regard dur et la même voix qu'il a pour dire. J'aime mes chiens, j'aime la chasse, j'aime tuer tout ce qui vole, tout ce qui court. Je vous aime, Anne, et vous serez à moi pour toujours. Pour toujours. Mais est-il possible, Gilles, qu'un être puisse appartenir entièrement à un autre être?
Certains appellent cela l'amour.
Alors, l'amour, c'est comme la mort. On n'existe plus, tout est fini. Pourquoi? Oh, Gilles, puisque vous m'aimez, ne me faites pas souffrir, ne m'enfermez pas. Laissez-moi vivre. Aimez-moi comme je vous aime, simplement.
Alain Cuny et Marie Déa, Gilles et Anne, hein, dans Les Visiteurs du soir de Marcel Carné en 1942. Carné qui avouait, lui, une dette envers les très riches heures du duc de Berry. Donc, on est un peu plus tard. Vous y voyez un écho au lait de Marie de France, Viviane Griveaux-Genest?
On retrouve des motifs qui jalonnent les laits, la scène à la fontaine, qui est un topos, un grand motif classique de la littérature médiévale, et qu'on a par exemple retravaillé un petit peu dans le lait de Lanval, où Lanval rencontre sa bien-aimée qui a tout l'air d'une fée, mais qui n'est pas vraiment présentée comme telle par Marie de France. Donc Lanval... la rencontre près d'une rivière. On a aussi dans ce passage, au cœur de la déclaration, l'idée de l'étonnement et de la merveille, s'étonner de la nature, des oiseaux et de l'origine de l'amour. Et le mot merveille, l'étonnement, est un signal dans chaque lait pour indiquer... Cette dimension extraordinaire de l'amour qui se joue. Donc c'est effectivement visuellement la dette aux très riches heures de Berry est flagrante. On déambule dans les enluminures, mais il y a aussi une affinité profonde avec l'esprit de la littérature médiévale qui est tout à fait intrigante et même émouvante dans ce film.
Qu'est-ce que ce serait alors que aimer pour Marie de France, hein, parce qu'il y a quand même aussi une particularité, alors je ne sais pas si c'est une particularité par rapport à ses contemporains du XIIe siècle, mais avec une attention particulière au désir, à la sexualité, au plaisir sexuel même. Est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est propre à Marie de France? Ou est-ce que c'est quelque chose qui circule cette époque-là?
La question de l'amour est au centre de la pensée du XIIe siècle. Enfin, on est dans une période qui redécouvre l'art d'aimer d'Ovide, avec parfois des biais étonnants pour le lecteur moderne, puisque les clercs médiévaux, un petit peu soucieux du contenu du texte antique, qui est un manuel de séduction tout de même, il faut le rappeler, suppose que Covid propose un sens caché. Malgré tout, il y a une conception de l'amour avec l'amour courtois, la fine amour de la lyrique occitane qui s'invite avec force dans la pensée du XIIe siècle, également à travers Aristote ou Saint Bernard avec le sermon sur le Cantique des Cantiques. Donc l'amour est au cœur des considérations avec des angles d'approche très différents. Et l'angle d'approche de Marie de France se singularise, ça c'est à l'évidence, puisque par rapport à l'amour courtois, on va avoir un amour qui aime bien ne pas trop s'éterniser. Or, l'amour courtois aime à créer des longueurs, car les longueurs créent le désir. Et Marie de France peint notamment dans Guijemard, par exemple, des déclarations qui sont somme toute assez rapides et qui font une place à la joie d'aimer, non pas à la joie de se sentir aimé. Moins de distance et plus d'adhésion immédiate. Et puis, on a une place aussi à la dimension charnelle, au plaisir, qu'on ne retrouve pas avec la même neutralité chez d'autres auteurs. L'amour charnel est évoqué, les médiévaux la connaissent, mais elle est souvent orientée par le discours moraliste, souvent. Pas de façon systématique, mais il y a souvent un regard moralisant sur ces questions. Or, Marie de France, ici, propose clairement des histoires d'amour qui font une place au plaisir, et notamment des femmes, et qui font aussi une place aux conséquences de l'amour, puisque par rapport à tous les héros courtois de la littérature médiévale, les héros de Marie de France parfois se retrouvent embarrassés d'un enfant qui vient dans l'histoire et qui a une place narrative, voire deux, dans le cas de Naissance gemellaire dans Le lait du frêne, naissance bien encombrante aux yeux de l'intéressé. Donc il y a cette place assez atypique du plaisir, de la parentalité qui s'invite aussi dans ces lettres.
D'autant plus qu'il peut être question tout aussi bien d'adultère, de polygamie, d'une certaine façon, et puis d'union libre aussi.
On a également, effectivement, un texte qui dialogue avec la polygamie, c'est Élie Duc, l'homme aux deux femmes. C'est d'autant plus intéressant que vraisemblablement, un des récits folkloriques celtiques qui serait à l'origine de ce texte, lui prenait clairement le parti de la polygamie, car les coutumes irlandaises le permettaient. Donc Marie de France traite le matériau celtique tout en essayant de composer avec cette polygamie.
Qui s'achève par le pardon de la première femme,
tout à fait.
Une sorte de solidarité féminine.
Tout à fait, la première femme jugeant que que l'amante est si belle qu'elle mérite de vivre heureuse avec son amant. Donc c'est une forme d'abnégation absolument extraordinaire. Et elle demande à fonder un monastère pour laisser son mari libre de convoler en juste noces avec son amante.
La fille qui n'a point d'amis, on l'entend, Christine de Pisan, mise en musique par le compositeur du XVIe siècle François Layol, interprétée par l'ensemble Douce Mémoire, paru sous le label Astré en 1993. C'est aux 100 balades d'amants et de dames que vous vous en remettez, Jacqueline Cerchiglini-Toulé, qui paraît en poésie Gallimard dans une édition bilingue préfacée et traduite par vos soins, un recueil que vous abordez une première fois, je crois, il y a déjà bien longtemps, en 82, me semble-t-il, qui est Christine de Pisan à ce moment-là. Comment la lit-on, c'est-à-dire en 82, quand vous commencez à l'aborder?
Alors, d'abord, on peut la lire en 82 dans la langue du 15e siècle, qui n'est pas une langue si ancienne que ça, mais je n'avais pas donné à l'époque de traduction. Et j'avais simplement mis des étoiles et des mots dans un glossaire. Quand j'ai été intéressée à reprendre cette édition, tout le monde m'a sauté dessus en me disant « il faut traduire ». Plus personne, on est combien d'années après 82, j'en sais rien, oui, ne peut lire. Et c'était un défi qui m'a finalement plu. Avant, je ne souhaitais pas et je n'aimais pas traduire, mais je me suis dit « il faut que je le fasse ». Et ça n'est pas inutile parce que cette poésie doit encore être entendue. Et à mon avis, elle parle aux gens. Il faut un tout petit effort. Alors, en 82, qu'est-ce qu'on savait de Christine de Pizan? Elle commençait, on était au début. Christine de Pizan est venue sur le devant de la scène par les féministes américaines. C'est parti essentiellement de là, mais on était au début d'une vague importante. Presque tous, les textes de Christine de Pizan sont édités. Peu sont traduits, mais il y en a quand même quelques-uns. Donc, on a fait un saut tout à fait considérable.
Alors, on en a fait, évidemment, une poétesse, ce qu'elle est, une philosophe, la première à vivre de sa plume, la première à combattre pour l'égalité d'éducation entre les hommes et les femmes. On en a fait une pré-féministe. On en a fait aussi, pour certains, la première à écrire véritablement un sentiment national. Qu'est-ce qu'il faut garder de tout cela? Qui est celle que vous appelez Christine, d'ailleurs, tout simplement?
C'est son Christine, nom, Christine.
Son prénom. Qui est-elle pour vous, au fond?
Le prénom, vous le savez, c'est le nom chrétien, donc c'est le vrai nom, si j'ose dire, pour le Moyen-Âge. De Pizan, c'est le nom de son père, qui est de Pizzano, d'où les deux Z. On m'interroge toujours sur le Z de Pizan. Elle n'est pas de Pise. Christine de Pizan, c'est d'abord une Européenne, parce qu'elle naît à Venise, elle arrive à l'âge de 5 ans en France, donc elle vient d'une autre langue et d'une autre culture. La culture des villes en Italie, le rapport à l'amour, c'est différent d'un autre milieu. Et elle arrive à la cour de France, donc à la cour de Charles V, où son père, Thomas de Pizan, est un médecin, astrologue extrêmement important, très, très, très bien payé par Charles V. Et donc, elle va se mettre à aimer la France, à parler, elle écrit en français, c'est quand même un prodige. Et c'est ça, vous citiez les grands professeurs de la Troisième République, puisqu'on a parlé de Bédier tout à l'heure. Les grands professeurs de la Troisième République ne l'apprécient pas outre mesure, mais lui donnent une sorte de brevet de patriotisme, puisqu'elle est une des premières à avoir parlé de Jeanne d'Arc et à célébrer Jeanne d'Arc.
À la toute fin de sa vie.
À la toute fin de sa vie.
Qu'est-ce qu'il reste, au fond, de vous parliez de sa naissance vénitienne et donc de ses premières années en Italie. Qu'est-ce qu'il va rester de ça, justement, de cette Italie-là, dans l'œuvre même de Christine de Pizan?
On pourrait se dire, est-ce qu'il reste des italianismes dans sa langue? On dit que non, ou on disait que non. À mon avis, si on fait attention, j'en ai relevé quand même un petit nombre. À mon avis, surtout une culture qui est la culture des villes. Et par exemple, de manière politique, elle dit à ses interlocuteurs, aux grands seigneurs français, vous ne savez pas ce qu'est un tyran. Moi, je peux vous dire ce que c'est. Et elle pense aux tyrans italiens, enfin, de ces cités italiennes. Et donc, elle soutient Charles V, Charles VI, avec des idées qui sont des idées politiques qui ont une ampleur qui n'est pas limitée strictement, je dirais, à la vue du royaume de France. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et puis, sur l'amour, il y a une critique de l'amour courtois qui, au nom, en parlant en son propre nom, vous avez parlé de presque autobiographie, mais c'est vrai, en son propre nom, elle a une ballade où elle célèbre le mariage, son propre mari, les joies de la nuit de noces, ou la délicatesse du mari le jour de cette nuit de noces, et se permettre à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, de chanter l'amour pour son mari, c'est inouï. Inouï. L'amour courtois, c'est pas ça. Et Christine se marie, dit qu'elle est heureuse, le mari meurt, et ne se remarie pas.
C'est là que se situe la transgression, au fond. C'est, oui. C'est à cet endroit-là, précisément, c'est-à-dire ce choix-là de, à 25 ans, veuve, oui. Décider alors,
de ne pas se remarier.
Pas se remarier.
Oui. Ça, c'est une vraie transgression. Et de ne pas rentrer dans un couvent, et donc il faut vivre. Et donc la famille avait été assez riche du temps du père, qui était subventionné par, je ne sais pas si on dit comme ça, enfin, qui obtenait des subsides de Charles V. Pour Christine, ça va être vraiment difficile. Alors, c'est une volontariste, ça me plaît ça. Elle on devait de l'argent à son mari, elle commence par se dire « je vais le récupérer ». Et pour le récupérer, il faut faire des procès. Or, une femme, vous savez, ne doit pas parler en public à l'époque, etc. Donc, ne doit pas plaider, mais même faire plaider. Et elle s'attache, elle va y passer 10 ans de sa vie, à faire revenir les dettes qui avaient été contractées à l'égard de son mari. Donc là, il y a quelque chose de nouveau, et à mon avis, qui tient aussi à sa culture. Enfin, on dira, elle est restée 5 ans en Italie. Mais quand même, elle est d'une famille italienne. Il y a un ensemble de faits qui montrent que sa détermination n'est pas celle que pourrait avoir une femme noble d'un milieu de cour du 15e siècle.
Puisqu'on parlait de transgression, Jacqueline Cerchiglini-Toulet, donc c'est son nom qu'elle garde, hein, oui. Son nom de fille, hein, oui. D'ailleurs, de fils même, puisqu'elle
oui.
dit
oui, je suis le fils.
Je suis le fils de Thomas. Donc c'est son nom qu'elle garde, celui de son père, elle l'écrit. Comme elle écrit que homme, elle est devenue, de femelle devient mâle, ou encore je crois que c'est dans Mutation de fortune qu'elle dit dont m'esbahit, mais j'éprouvais que vrai homme j'étais devenu. Or je fus vrai homme, ce n'est pas femme. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette transformation qu'elle affiche jusque dans ses écrits et qui au fond va faire d'elle, à partir de ce veuvage, quelqu'un qui écrit, mais quelqu'un qui écrit, alors le terme est peut-être maladroit, mais sans corps, d'une certaine façon.
Alors, la transgression de Christine, de prendre la plume, elle se marque, elle a marqué des pas là, dans cette progression. Parce que sa première idée, c'est le mari est mort, prendre sa place. Donc, elle emploie pour ça une image, gouverner la nef, hein, le navire qui représente son ménage et la vie en général pour un chrétien. D'où la métamorphose, c'est le texte de la mutation de fortune. Elle se transforme en homme. J'étais sans fable, véritable homme devenu. Et sur le modèle du Christ, elle, Christine, enfin il y a tout ce jeu. La deuxième étape, c'est de se faire femme, ce que j'appelle superlativement. C'est-à-dire de prendre la parole au nom des femmes, et c'est là où elle écrit la cité des dames. C'est un culot mince d'écrire la cité des dames, parce que à quoi ça fait allusion ? À la cité de Dieu de saint Augustin. Faut le faire, hein. Cité des femmes, et elle écrit un livre, c'est de la prose, où elle va réunir des vies de femmes, donc c'est sur le modèle de Bocas, si vous voulez, la vie des femmes célèbres, mais il ne faut pas toujours la ramener non plus à des modèles, mais il est là quand même derrière, donc la vie des reines, donc des femmes qui peuvent gouverner, la vie des guerrières, les Amazones, la vie des femmes qui peuvent combattre, qui peuvent prendre des armes, et puis la vie, je dirais en parlant en moderne, des intellectuels, des artistes, des peintres, etc. Et là, elle fait une distinction non seulement de celles qui ont illustré des arts existants, mais de celles qui ont inventé, créé des arts. Et là, elle cite Carmenta, donc la déesse qui est censée avoir apporté de Grèce à Rome l'alphabet latin, d'avoir créé l'alphabet latin pour que les Romains ne soient pas sous le joug, en quelque sorte, de l'écriture grecque. C'est magnifique.
Alors, on écoute justement un extrait de la Cité des Dames.
Enfin, vous toutes, mesdames, femmes de grande, de moyenne ou d'humble condition, avant toute chose, restez sur vos gardes et soyez vigilantes pour vous défendre contre les ennemis de votre honneur et de votre vertu. Voyez, chers amis, comme de toutes parts, ces hommes vous accusent des pires défauts. Démasquez leur imposture par l'éclat de votre vertu. En faisant le bien, convainquez de mensonges tous ceux qui vous calomnient. Repoussez ces hypocrites, enjôleurs, qui cherchent à vous prendre par leurs beaux discours et par toutes les ruses imaginables votre bien le plus précieux, c'est-à-dire votre honneur et l'excellence de votre réputation. Oh, fuyez, mesdames, fuyez cette folle passion qu'ils exaltent auprès de vous. Fuyez-la, pour l'amour de Dieu, fuyez. Rien de bon ne peut vous en arriver. Soyez certaines, au contraire, que même si le jeu en paraît plaisant, cela se terminera toujours à votre préjudice. Ne vous laissez jamais persuader du contraire, car c'est la stricte vérité. Souvenez-vous, chers amis, comment ces hommes vous accusent de fragilité, de légèreté et d'inconstance, ce qui ne les empêche point de déployer les ruses les plus sophistiquées et de s'évertuer par mille manières à vous séduire et à vous prendre comme autant de bêtes dans vos filets. Fuyez, mesdames, fuyez. Évitez ces liaisons, car sous la gaieté se cachent les poisons les plus amers et qui entraînent la mort. Daignez, mes très vénérées dames, accroître et multiplier les habitantes de notre cité en recherchant la vertu et en fuyant le vice, et réjouissez-vous dans le bien. Quant à moi, votre servante, ne m'oubliez pas dans vos prières, afin que Dieu m'accorde la grâce de vivre et de persévérer ici-bas en son saint service, et qu'à ma mort, il me pardonne mes grandes fautes et m'accueille dans la joie éternelle. Qu'il étende sur vous toute la même grâce. Amen.
Juliette Rizou, la comédienne Juliette Rizou, lisant un extrait de La Cité des Dames, c'était en juin 2018, pendant les Langagières, au TNP, sur le plateau des Mots de Minuit de Philippe Lefay. Au fond, alors c'est peut-être là que se loge aussi un petit malentendu. Alors même si on doit aux féministes d'être allées rechercher Christine de Pizan, au fond, elle ne prend davantage le parti de la vertu que celui de l'émancipation des femmes. En fait, ce pourquoi elle plaide, c'est pour la réputation, l'honneur et la vertu des femmes.
Oui, tout à fait. Il y a une vision morale de Christine qui ne met pas en doute le fait que une femme qui a épousé un homme doit lui être fidèle, etc. Ou les valeurs morales chrétiennes, on voit comment se termine. L'allusion qu'elle fait dans le passage que vient de lire Juliette Rizou, c'est au roman de la Rose. On critique la femme, on dit qu'elle est fragile ou facile à tromper, mais il faut des tas de ruses aux hommes. Alors il y a une contradiction. Elle est très ironique. Il y a de l'humour. Si vraiment elle était si facile que ça, pourquoi écrire des ouvrages épais pour dire toutes les ruses qu'il faut pour tromper les femmes? Donc de ce point de vue-là, effectivement, il n'y a pas, elle n'est pas révolutionnaire. Elle est révolutionnaire, si j'ose dire, au niveau de l'amour courtois, parce qu'elle montre que la construction que représente l'amour courtois est une tromperie, que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher.
Ce qu'elle va faire en attaquant le roman de la Rose, c'est-à-dire en attaquant la deuxième partie du roman de la Rose.
Oui, mais même l'amour courtois en général, tel que l'ont chanté les troubadours, c'est-à-dire que le fait que dans les degrés de l'amour, il faut dans l'amour courtois s'arrêter au quatrième degré, c'est-à-dire avant l'acte sexuel, avant le fait, comme disent les troubadours, elle montre que physiologiquement, physiquement, psychologiquement, c'est pas possible, ça marche pas vraiment. Et donc, qui est trompé dans l'affaire? La femme qui veut avoir des enfants non désirés, c'est ce que montre Marie de France, qui de ce point de vue-là a une vision féministe de ce qu'est ce jeu avec l'amour courtois qui vous fait croire que on va s'arrêter à la sague. Bon, oui, peut-être, mais encore. Et donc là, Christine, de ce point de vue-là, il y a une forme de prise en compte de la réalité.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Donc dans ces 100 ballades d'amants et de dames qui ont été écrites probablement autour de 1410, par là
1406 maintenant, dit-on.
Maintenant, oui. D'accord, maintenant, oui. Donc ces 100 ballades d'amants et de dames donc, mettent en scène donc, la dame et l'amant, donc sans nom, sans titre, sans date. Donc il y a ici une dame, un amant, un long temps de résistance de la dame, puis finalement, évidemment, avec l'intervention du dieu de l'amour, néanmoins, mais elle finit par céder, et puis après moult retrouvailles, séparations, finalement, l'amant finit par s'éloigner et la dame finit par, de son côté, s'étioler et évidemment mourir d'amour, de désespoir d'espoir déçu en tout cas, puisque évidemment l'amant finit par s'éloigner. Alors peut-être que vous pourriez nous lire cette toute dernière ballade, maintenant que je viens de dévoiler la fin de cette triste histoire, mais néanmoins la dernière ballade, qui est la centième, qui achève...
La ballade 100. Je suis au lit malade, couché, tremblant d'une forte fièvre aiguë, pour m'être trop précipité dans l'amour qui me tourmente, plus qu'il n'y a venin dans la ciguë, je le crois bien. J'en meurs, sans plus jamais sortir, déjà le cœur me manque. adieu qui m'a séduite, puis par fausseté me tue, que j'en sois vengée, car il m'a cruellement déçue. Que cet exemple soit su de toutes les dames, afin qu'un tel amour n'affecte leur cœur. Déjà le cœur me manque. Adieu, amour, par toi je suis proche de la mort. J'en exsude déjà la sueur et suis plantée sur son seuil. Que ne soit pas perdue mon âme, mais que Dieu la reçoive. Adieu, monde, adieu, honneur. Mes yeux se troublent, ma voix s'éteint, déjà le cœur me manque. Priez que je sois reçu par Dieu. Adieu, frères et sœurs, je m'en vais sans attendre. Déjà, le cœur me manque. Explicite, sans balade d'amant et de dame.
Merci. Quelle serait alors la leçon, au fond, de ces balades-ci ?
Il y a un paradoxe qui est de mettre en récit des pièces lyriques. Les pièces lyriques, d'habitude, c'est l'unité d'une balade ou d'un rondeau, etc. Là, elle va, parce qu'elle y est contrainte, elle dit qu'elle écrit cette œuvre sous contrainte, comme une amende, parce qu'elle a dit du mal de l'amour dans le texte précédent, qui était donc ce livre du Duc des Vrais Amants. Mais elle se plie à cette contrainte. Mais en fait, c'est ça qui est formidable. Elle fait ce qu'elle veut. Alors, on peut me dire, et on m'a dit quelquefois que mon interprétation, après tout, on ne sait pas si l'amant a vraiment trompé. Ça reste un tout petit... Elle meurt, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas si l'amant, puisqu'il s'accuse réciproquement, qui veut tuer son chien...
On sait qu'il est moins disponible quand même.
Il est moins disponible, indéniablement moins disponible.
Ça suffit à mourir d'amour.
Ça suffit à mourir d'amour. Et donc, le texte commence in medias res. C'est-à-dire, l'amant, il aime déjà et il veut que la dame accepte l'amour. Et vous l'avez dit, ça prend 10 balades pour que la dame accepte avec des tas de conditions. Et elle n'accepte que parce que le dieu amour intervient en lui disant « Fillette, là, il emploie les diminutifs, tu vas aimer, je te l'ordonne, tu es faite pour ça. » Et donc, après, on a toute une série où... Elle se prend à aimer et où elle aime outre mesure. Et à partir de ce moment-là, l'amant, comme vous dites, est de moins en moins disponible. Parce qu'un amant donc noble, hein, comme ça se passe dans des milieux de la noblesse, c'est un il y a deux emblèmes sous lesquels il doit, avec lesquels il doit travailler, qui est armes et amour. Donc, il s'est consacré à l'amour, il faut qu'il se consacre aussi aux armes. Et on voit qu'à la balade 50, le jeu avec les nombres est tout à fait important, il fait une balade, il y a deux balades de lui qui se suivent, d'ailleurs ça rompt l'alternance à des points stratégiques, et il dit qu'il est obligé de partir à la guerre, etc., etc. Donc, là, la dame est prise au piège. Elle aime, lui est moins disponible, alors... Elle soupçonne qu'il y a une rivale. Lui dit pareil, mais vous-même, on vous a vu, etc. Et ça part dans cette sorte de déconstruction de l'amour qui aboutit à la mort de la dame. Alors, ce qui est fascinant dans le recueil, c'est que le texte était parti d'un chantage à la mort par l'amant. L'amant lui disait à la balade 1, « Si vous ne m'aimez pas, je meurs. » Et ça se termine, c'est quand même pas tout à fait innocent, à la balade 100, par la dame qui meurt, sans chantage. Mais c'est de la littérature.
Qu'est-ce qui la ramène, Christine de Pizan, au vers à ce moment-là ? Donc, on est en 1406. Alors, elle commence par les balades, hein, quand elle va entrer en écriture à la toute fin du siècle. Elle va commencer par des balades et qui vont être les balades où elle va raconter son chagrin, sa souffrance de jeune veuve hein, qui vient de perdre son mari qu'elle a tant aimé. Et elle y revient, donc là, des années après, à la balade. Alors, elle répond à une commande, sans doute, et sous contrainte, comme vous l'avez dit. Mais néanmoins, qu'est-ce qui la ramène à cette forme-là, au fond, plus légère ? Au vert, alors qu'entre-temps, elle a déjà commencé à écrire des textes beaucoup plus politiques, plus sérieux, plus liés aux menaces qui pèsent sur la France à ce moment-là.
La carrière de Christine part de son talent d'écrire. C'est-à-dire, elle avait le talent de faire des balades que lui a reconnu la cour. Et donc, même elle était encore, le mari n'était pas encore disparu, il y a des balades qui commencent à circuler où apparemment elle a ce talent d'écrire des balades. puis il y a le recueil que vous avez évoqué des 100 balades, les 100 premières balades, où elle va effectivement faire fond sur sa douleur de veuve et sur d'autres thèmes, donc qui est à proprement parler un recueil, alors que les 100 balades d'amants et de dames, c'est à proprement parler un livre, puisqu'il y a une histoire. Alors pourquoi revient-elle à ce type d'écriture? À mon avis, d'une part la contrainte, on lui donne l'ordre, c'est ce qu'elle dit dans la balade prologue qu'elle met hors numérotation, on lui dit qu'elle doit écrire sur ce thème, puisqu'elle a mal tranché le problème précédent dans le texte précédent. Et puis, il y a manifestement un goût de Christine pour l'écriture lyrique, pour la balade, qui est, à mon avis, quelque chose qui est fondé sur le rythme. Je suis fascinée par le travail du rythme dans les pièces de Christine de Pizan, ce travail du rejet, ce travail sur la ligne brisée, et ce plaisir... Alors, qui est à la fois un plaisir, je dirais, psychologique, moral et de poésie, d'être toujours en décalage, d'être toujours ailleurs, et d'être dans la marge. Et donc, là, avec le travail sur les balades, elle met en scène, en quelque sorte, ce rythme qui est un équilibre, un déséquilibre. C'est pour ça qu'elle joue avec les nombres. Hein. Elle joue avec les nombres 100, ça paraît bien carré, 50, voilà. Mais le dieu amour balade 10, donc tout ça paraît extrêmement cadré. Or, les balades où les deux amants sont réunis, c'est des balades hors d'une numérotation significative, dirons-nous, symbolique, mais qui, il y en a 5, et 5, c'est ce que le Moyen-Âge appelle le chiffre nuptial, c'est-à-dire l'union du 3 et du 2, de l'impair et du pair, l'impair étant le 1 et la perfection, Dieu, l'homme, et le pair étant ce qui est divisible, donc la femme, ce qui partage, ce qui donne un enfant, et ces balades, ces 5 balades en dialogue, Christine les met, et ce faisant, elle isole en quelque sorte cette partie de son texte. Hein. Et c'est comme si elle recréait un monde, comme si elle recréait le monde tel qu'on l'envisage au Moyen-Âge, depuis les origines. Et elle le recrée dans l'équilibre et le déséquilibre. Équilibre des formes fixes, ou dites fixes, hein, c'est pas si fixe que ça, et déséquilibre de, dans cet ordre, 100 avec des points, 10, 50, etc., 32, des moments où arrivent les deux voies qui sont... Le 5, c'est la roue de fortune. L'équilibre et le déséquilibre, c'est la roue de fortune. Ça met en mouvement. Et je crois que ce qu'elle aime dans le lyrisme, ce qu'elle réussit à mon goût à merveille, c'est ce travail du rythme. Faire sentir des idées par le rythme. C'est la poésie.
Vous avez parlé de livres, Jacqueline Cerchiglini-Toulet. Alors c'est vrai que, alors on a peut-être pas expliqué bien la forme. Donc il y a effectivement ces 100 balades, mais qui sont encadrées par un prologue et par un lait. Alors il faudrait encore une émission de plus pour pouvoir pour pouvoir analyser ce lait qu'elle ajoute à la fin de ces balades. Donc on parle bien d'un livre. Peut-être que c'est aussi un moment où on passe peut-être. Je ne sais pas, où on passe de l'oreille à l'œil, hein, c'est-à-dire que vraiment c'est un moment où le livre va devenir un objet qu'on va collectionner, qu'on va mettre en bibliothèque, même si on est avant Gutenberg. Et je me demandais quelle éditrice, au fond, était Christine de Pizan, parce que après tout, c'est elle aussi qui organise ces livres-là. Je ne sais pas si vous avez eu en main le manuscrit, sûr, oui. Donc je ne sais pas à quoi il ressemble. J'imagine que ça doit être quelque chose de l'avoir entre les mains.
Les 100 balades d'amants et de dames ne sont connues que par un seul manuscrit, qui est le manuscrit magnifique de Christine de Pizan, où elle a rassemblé toute son œuvre volontairement. Elle avait une sorte, dit-on, une petite atelier de copie, c'est-à-dire elle a voulu contrôler sa production, non seulement écrire, mais contrôler donc la distribution de son œuvre, et elle appelle ça ventiler son œuvre. Et elle dit qu'elle écrit pour le futur, pour avenir, pour ce qui va arriver. Donc il y a une vision extrêmement consciente, on pourrait dire orgueilleuse, mais elle a raison, de ce qu'elle fait et de sa production. Donc dans ce manuscrit, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est vraiment construit, puisque contrairement à l'ordre strictement chronologique, mais ils font tous ça les médiévaux, ils sont astucieux, elle encadre l'ensemble de ses œuvres par le premier texte, c'est les 100 balades, et le dernier, C'est les 100 ballades d'amants et de dames. Alors qu'elle a écrit après, puisque d'après les derniers critiques, 1406, elle a encore écrit diverses choses après, qu'elle offre le manuscrit en question à Isabeau de Bavière en 1414. Et c'est un manuscrit extrêmement beau, avec une miniature au début du manuscrit, une peinture, je pourrais dire, où on voit, c'est la scène classique de l'offre du livre au mécène. Oui, parce que comment on est payé au Moyen-Âge quand on écrit ? On est payé si on offre le livre à quelqu'un qui est un grand de ce monde et qui va en retour vous faire un cadeau. Et plus le livre vous a coûté cher à faire, en temps cher, en miniature, etc., plus théoriquement, si la personne à qui on l'offre est consciente de ce qu'il doit faire, le cadeau sera somptueux. Et donc là, la scène d'offrande du livre est magnifique parce que elle est toutes les dames. Il y a Isabeau de Bavière sur le trône avec toutes ses coiffures, tellement je fais des signes à la radio, exubérantes du 15e siècle. Et Christine, donc toutes ces dames en rouge et Christine en bleu qui humblement s'agenouille pour offrir le livre. C'est une miniature absolument superbe.
Il y en a d'autres, hein, parce que ce qu'on mesure pas très bien, en fait, nous vu d'ici, c'est que Christine de Pizan était tout à fait célèbre de son temps, qu'elle a même été traduite
assez tôt, beaucoup traduite.
Représentée à plusieurs reprises, donc pas seulement dans la miniature que vous évoquiez à l'instant. Quelle est l'image qu'on veut transmettre d'elle? Au fond, à quoi ressemblait-elle véritablement? Qu'est-ce qu'on sait?
C'est toujours qu'est-ce qu'on sait d'elle? Elle est toujours représentée, si c'est bien elle, ça peut être une figure topique, c'est une figure topique dans son point de vue, mais très souvent elle a une robe bleue. Le bleu de la loyauté dans l'interprétation des couleurs. Cette coiffe très caractéristique, la forme de la coiffe va changer à la fin du XVe siècle, où la mode change, les miniaturistes, les enlumineurs suivent la mode. Et donc la coiffe a une autre forme, et donc même les traits de Christine peuvent changer. Mais ce qui est important, c'est que elle est jugée digne de figurer dans des endroits stratégiques, comme la scène typique et topique de l'offre du livre ou des choses comme ça. Ou dans la Cité des Dames qu'on évoquait, la magnifique scène où les trois dames qui gouvernent la cité viennent donner l'ordre à Christine qui est mélancolique, donc la main sur la paume de sa joue, c'est l'attitude typique de la mélancolie, viennent lui donner l'ordre de se réveiller et de creuser la terre, et où on voit les trois dames, donc les trois vertus, raison, droiture et justice, qui vont apporter les instruments, la bêche pour fuir la terre, creuser la terre et jeter dehors les erreurs qui sont la misogynie, etc. Et donc cette représentation, c'est très fort. C'est vu, même si c'est pas la figure de Christine en tant que telle, de Christine face aux allégories, et de Christine avec ses instruments de la construction, la truelle, le maçonnage des murs, etc. Il y a une volonté, moi j'aime les gens volontaires, il y a une volonté extraordinaire de Christine qui traverse son écriture et qui traverse la représentation que les miniaturistes, les enlumineurs ont donnée d'elle.
Alors elle écrit par ailleurs, elle écrit aussi, et surtout d'ailleurs, elle écrit pour vivre, hein. Elle va vivre de sa plume, ce qui n'était pas si courant, donc c'est en cela aussi qu'elle se charge de la diffusion d'une certaine façon de son œuvre, de l'organisation de son œuvre, de la publicité d'une certaine façon de son œuvre aussi. Au fond, qu'est-ce qu'on sait, je ne sais pas, du nombre d'exemplaires par exemple, le nombre de copies qui pouvaient circuler d'un recueil de Christine de Pizan, de qui la lisait, de à qui elle s'adressait?
Alors là, il faut serrer. Ce qu'on sait, c'est à qui elle a offert. Et pour vivre de sa plume, elle est très, très consciente que si elle offrait à une seule personne, et que cette personne, par malheur, certes grand prince, mais était un peu ladre, comme on dit maintenant, ça n'allait pas le faire. Et donc, elle fait faire plusieurs copies et elle personnalise les dédicaces. Alors, on lui a reproché, on a dit, oh, l'hypocrite, elle en offre un. Parce que, bien sûr, les grands princes ne sont pas tout à fait tous sur la même ligne politique. Donc, elle en offre un au duc d'Orléans et puis elle en offre un au duc de Bourgogne. Mais voilà, il y a aussi une adaptabilité, un intéressante et intellectuelle. Donc elle répond, elle diffuse son œuvre, elle la ventile, si je reprends son mot, et puis elle répond à des commandes. Et alors ça, c'est extrêmement intéressant. Le duc de Bourgogne lui commande la vie de Charles V, la vie de son frère. Donc que ce duc... Et il faut qu'elle ait été célèbre pour qu'on demande à une femme d'écrire un texte de type historique et moral. Et donc elle l'accepte, elle le fait. Malheureusement, le commanditaire meurt, elle en est écrit encore. Pourtant, elle écrit vite, hein, que le premier livre, et c'est pas un reproche, que le premier livre, et donc elle va continuer, elle va l'offrir au successeur de ce duc de Bourgogne mort. Donc il y a vraiment toute une vision de son travail qui montre aussi l'évolution du rapport à l'écriture, du rapport au livre, du rapport à la diffusion de cette fin du Moyen-Âge qui est très, très caractéristique. Et elle est traduite dans beaucoup de langues. Et elle n'hésite pas à écrire sur des sujets dont on pourrait dire que ce n'est pas ce que devrait faire une femme. Elle écrit des traités de stratégie de guerre. Le livre des faits d'armes et de chevalerie, donc c'est celui, il sera bientôt édité, dont on attend encore pour la France l'édition, c'est un traité alors, pour lequel elle emprunte beaucoup à des ouvrages antérieurs, mais on voit bien, elle sait qu'il y a un lectorat pour un traité militaire. Elle le fait. Et ce texte est traduit, quand il est traduit en Angleterre, elle parlait en jeu Christine, donc avec un jeu féminin. C'est tout gommé, ça devient tout désaccord au masculin. Et son nom disparaît.
Jacqueline Cerchiglini-Toulet, Viviane Griveaux-Jeunesse, merci à toutes les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, excellente après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Viviane, une question qui est... Christine de Pissant ne cite jamais Marie de France et je crois qu'elle ne la connaît pas. Ça vous étonne? Non, elle n'avait aucune raison de pouvoir la connaître.
Non, effectivement, dans ce que j'ai pu constater, c'est surtout jusqu'au 13e, il me semble, que Marie de France perdure.
Parce que je n'ai vu après associer Christine de Pizan et Marie de France que par des, disons, des érudits ou des gens faisant des anthologies. Et ça m'a toujours frappée. Vous savez, on a inventé des fausses auteurs féminines adaptées au goût du jour et de l'époque. Donc là, je parle d'une invention d'une femme au début du 19e siècle, à la fin de l'époque révolutionnaire. Et là, dans les anthologies qu'on fait, on met du Marie de France, on met cette femme inventée et Christine, mais très peu. La femme inventée, bien sûr, plaît mieux. Parce que elle parle, elle se penche au-dessus d'un berceau. Enfin, il y a quelque chose qui, elle s'appelle Clotilde de Surville. Et Clotilde de Surville, dans ses anthologies, qui paraissent à partir des années 40 du 19e, a plus d'importance et que Marie de France et que Christine de Pizan. C'est-à-dire, le faux Moyen-Âge plaît mieux.
Mais de nos jours encore, le faux Moyen-Âge plaît toujours plus parce qu'il est calibré pour les attentes du public.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique, Jean-Michel Bernaud, Thierry Beauchamp pour la préparation, François Connac pour la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de Jacqueline Cerchiglini-Toulet et Viviane Griveaux-Jeunesse sur le site de l'émission. À réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais d'ici là, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.